soit numérique et tais-toi.
Le numérique nous rapproche de cette réalité.
Allez, je vais t'apprendre 2-3 petits trucs.
Le numérique matérialise la réalité qui nous entoure.
J'ai rien compris.
Non, ou alors c'est moi.
Non, moi non plus, j'ai rien compris.
Tais-toi, va fada.
Le numérique, c'est avant tout du traitement de symboles.
Tais-toi.
Qu'est-ce que tu racontes? Tu connais rien, toi.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de Sois numérique et tais-toi, l'émission qui, chaque semaine, aborde en 10 minutes une des multiples questions sur les technologies numériques et informatiques qui s'occupent de nos titres de transport, de nos billets de festival, de notre rythme cardiaque et de nos livraisons. Et tant pis pour vous si vous n'avez pas lu les 90 pages de conditions générales d'utilisation. Au cours des chroniques précédentes sur le marché des données, nous avons pu voir à quel point, dans le domaine de la vente de nos données personnelles, les régulations qui nous protègent sont faibles et peu respectées. Or, il s'agit là du marché légal. En effet, pour clôturer notre série de chroniques sur ce thème, nous allons voir qu'il existe un marché noir où nos données sont aussi vendues, avec bien évidemment encore plus de mauvaises intentions derrière. Mais nous allons voir aussi que ces données sont vendues illégalement, mais ont généralement été collectées légalement. Alors, de quoi parle-t-on ? On est parfois fataliste quant à la protection de nos données personnelles, en partant du principe que de toute façon elles sont prises par tout le monde et que l'on n'y peut pas grand-chose. Mais pour les plus imprudents d'entre nous, un risque très grave existe : l'usurpation d'identité. En effet, aujourd'hui, grâce à la numérisation de nos activités, il est possible de faire un grand nombre d'actions sensibles en ligne, comme souscrire un crédit ou un contrat, payer ses impôts, recevoir des allocations, changer de coordonnées téléphoniques ou postales. Bref, pour toutes ces opérations, votre interlocuteur va vérifier votre identité à l'aide de données personnelles afin de s'assurer que la personne qui effectue l'action est bien le donneur d'ordre légitime. Autrement dit, si je me procure certaines données vous concernant, je peux effectuer ces actions en votre nom. Le but de l'usurpateur étant de commettre des actions frauduleuses impunément, bénéficier de vos droits, salir votre réputation ou tout simplement vous voler de l'argent. En réalité, ces pratiques ont des objectifs multiples et c'est pour cela qu'elles ne sont pas toujours détectées. Un sondage CSA publié en octobre 2012 montre néanmoins que cette délinquance est visible. À l'époque, 400 000 Français ont déclaré avoir été victimes d'usurpation d'identité au cours des 10 dernières années, contre la moitié 3 ans plus tôt. Alors, avant de parler des conséquences que cela peut avoir pour vous, intéressons-nous à ce marché parallèle des données. Il existe sur Internet un marché noir des données personnelles sur lesquelles il est possible d'acheter des listes d'adresses e-mail, des kits complets de l'identité d'une personne, des coordonnées bancaires, etc. En cherchant sur les sites cachés du Darknet, vous pouvez trouver des lots de données personnelles qui comprennent adresse postale, courriel, numéro de téléphone, de sécurité sociale et aussi numéro de carte bancaire. Combien ça coûte ? Alors, les prix varient, mais dans un article paru dans Atlantico en 2015, le journaliste évaluait le prix en moyenne à 19 euros le paquet. Ces paquets identitaires, appelés Full Z, comme Z complet en anglais, sont payés en crypto-monnaie comme le Bitcoin. Dans cet article, l'enquête a révélé, je cite, que le Full Z le plus cher qu'ils avaient trouvé valait 454 dollars. Parfait pour souscrire un crédit de voiture, précise le vendeur. Et les conséquences de cela ? Eh bien, elles sont multiples. Cela peut aller de l'utilisation sans votre accord de votre compte Netflix à la souscription d'un crédit à la consommation qui envoie des huissiers chez vous pour honorer le remboursement et vous retrouver interdit bancaire. Mais alors, réfléchissons un instant. Après cet aperçu du marché noir des données personnelles, on peut logiquement se poser la question : d'où viennent les données volées ? Alors, certes, il est difficile de savoir leur exacte provenance, mais dans la plupart des cas, elles viennent d'entreprises qui les ont collectées légalement, c'est-à-dire avec votre consentement. Alors c'est vrai, les entreprises qui collectent ces données vous expliquent qu'elles les conservent de manière sécurisée. Mais si l'on regarde en détail, tout ceci est relatif. Alors, regardons par exemple la société états-unienne Eventbrite, qui gère l'inscription et le paiement pour le compte d'organisateurs d'événements. Dans le sixième paragraphe de sa politique de confidentialité, Eventbrite indique « Nous prenons ce que nous croyons être des mesures raisonnables pour protéger les données personnelles recueillies via les services contre toute perte, mauvaise utilisation, accès non autorisé, divulgation accidentelle, altération et destruction. Toutefois, aucun réseau serveur, base de données ni transmission par Internet ou email n'est jamais entièrement sécurisé ni exempte d'erreurs. » Cela a le mérite d'être clair. Mais le système est encore plus pervers, car les pertes de données nuisent à la réputation d'une entreprise qui n'a donc aucun intérêt à avouer ces incidents. Même lorsque cela est rendu public, c'est souvent avec peu d'informations. Ainsi, en novembre 2018, certains clients d'Amazon ont été informés que leur nom et adresse e-mail avaient été, je cite, « révélés par inadvertance » suite à, je cite, « une erreur technique ». Mais il n'y a pas eu d'informations supplémentaires sur l'incident, et notamment le nombre de clients concernés ou la manière dont cela s'est produit. Et cet incident n'est qu'un exemple, parmi d'autres chez Amazon, et surtout un exemple parmi des centaines d'autres qui concernent des millions d'individus. On peut par exemple penser à la société de crédit Equifax, qui en 2017 a perdu les données de 143 millions de clients. Oups. Et cela n'est pas prêt de changer. Même en France, un rapport de l'Observatoire Société et Consommation, intitulé « Les Français et l'usurpation d'identité en 2015 », indique que 45% des entreprises en France ne disposeraient d'aucune consigne particulière pour assurer la confidentialité des documents. Mais il y a pire. Dans un reportage de France 24 réalisé en 2017, des journalistes expliquent qu'en République populaire de Chine, les données personnelles de particuliers peuvent être achetées par un simple clic sur Internet. Moyennant 700 yuan, environ 95 euros, vous pouvez récupérer les données d'une personne. Parmi elles, l'historique des hôtels visités, les vols empruntés, les cybercafés utilisés, ses passages de frontières, les appartements loués, les propriétés détenues et même certains dépôts de cash. Le plus inquiétant étant que l'enquête des journalistes montre que les informations achetées sont véridiques et qu'ils n'ont pas su déterminer d'où elles provenaient. Ah, mais alors, et nous dans tout ça ? Encore une fois, tout cela n'est pas rassurant. D'autant plus que même en France, il est très long et difficile de faire reconnaître une usurpation d'identité. Il est assez facile cependant de limiter les risques. Pour cela, il suffit de penser à l'envers. Qu'est-ce que je fournis qui peut ensuite être utilisé par le destinataire pour se faire passer pour moi ? Par exemple, pour vérifier votre identité, votre opérateur téléphonique va demander des informations personnelles qu'il détient. Date de naissance, adresse postale, nom de votre banque et les derniers chiffres de votre numéro de compte, de même que le montant de votre dernière facture. Chacune de ces informations prises séparément n'a aucune valeur, mais vous devez prendre soin de les protéger, car ensemble, elles peuvent permettre de résilier votre contrat, d'en souscrire à nouveau, d'obtenir une nouvelle carte SIM. Quand on sait maintenant que les paiements en ligne sont validés par SMS, ça fait réfléchir. D'une manière générale, il ne faut fournir que le strict minimum demandé par les entreprises. Il faut ainsi toujours réfléchir avant de fournir certaines données, quitte à renoncer à des services trop gourmands. Limiter le nombre de données que vous diffusez est la seule solution. Alors que certains vont vous expliquer que les données biométriques sont la solution, on sait déjà qu'il va être possible de les falsifier et même de les voler. On aura simplement perdu des libertés en étant de plus en plus fiché pour obtenir une sécurité qui sera bientôt obsolète. Mais rêvons un peu. Moi, je pense que dans le futur, les paiements électroniques devraient fonctionner avec un prélèvement sanguin à chaque paiement pour vérifier que c'est bien vous qui payez. Et puis comme ça évitera aux gens de trop dépenser.